Bonjour. Bonjour à ceux qui sont prêts, bonjour à ceux qui sont loin, dehors, qui cherchent la fraîcheur. Merci pour votre accueil, merci pour cette opportunité que nous avons d'être ensemble et de partager la parole de Dieu. Je vous encourage, s'il vous plaît, à mettre vos devices en veille. Et puis, on va donc ensemble partager quelques pensées durant cette journée et demie. L'idée, un petit peu, c'est il y aura deux facettes, si vous voulez, dans les messages qui vont être donnés. J'aimerais parler à la fois de Jonas et du problème que rencontrait Jonas dans son service pour Dieu. Et j'aimerais parler de l'unité aussi. L'unité que recherche Dieu au travers de différentes circonstances et parmi différentes sortes de personnes. Mais avant de cela, ça va servir d'introduction un petit peu ce matin. On va lire un extrait de Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12, à partir du verset 38. Matthieu 12, verset 38. Il est écrit ceci. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il leur répondit « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. » Donc ce passage est intéressant parce que Jésus, alors qu'il prêchait durant tout son ministère, faisait face évidemment à de l'opposition, et notamment l'opposition des pharisiens. Et vous savez, il y a alors déjà peut-être une explication par rapport au fait que Jésus dise « il y a ici plus que Jonas ». C'est parce qu'évidemment, Jésus est plus qu'un prophète, il est le Messie. Et donc si les Ninivites, avec leur cœur méchant, reconnaissaient que Jonas était un envoyé de Dieu, combien plus les pharisiens qui connaissaient la loi auraient dû reconnaître que Jésus était plus qu'un prophète. Donc il est assez sévère, hein, il les compare en leur disant « vous êtes une génération méchante et adultère ». Et c'est intéressant parce qu'on voit là, c'est que les pharisiens et les scribes mettent en doute, en fait, l'autorité de Jésus. Et ce qui est très intéressant dans cette façon de penser, et on peut rencontrer ça au sein des églises, mais aussi quand on évangélise, auprès de notre famille, etc., c'est qu'on fait des erreurs, bien sûr, nous ne sommes pas Jésus-Christ, mais nous avons normalement une autorité, nous avons une onction, nous avons le droit de parler de la vérité. Nous avons le droit de dire ce que Dieu dit. Et donc, on n'a pas à avoir honte du message. La seule chose, c'est que le message pose problème, gêne. Et donc, les gens trouvent une excuse en disant « ce que tu dis ne suffit pas, donne-moi des preuves. » Par exemple, encore une fois, nous sommes faillibles, nous ne sommes pas parfaits. Ils vont dire « mais toi, si tu es chrétien, fais telle ou telle chose, montre-moi un petit peu. Ce que c'est ta religion par ton comportement. » Ou alors, « prie pour moi, qu'il y ait un miracle. » Ça aussi, c'est une autre façon d'essayer d'avoir des preuves. Et là, Jésus enseigne avec une autorité extraordinaire, on le sait, mais ils veulent, de leur point de vue, quelque chose de plus. Ils veulent un miracle. Et pour, soi-disant, prouver son autorité. Et ils étaient gênés par sa prédication. Et souvent, nous, on préfère voir la chair des gens, on préfère voir les choses naturelles de celui qui parle pourtant avec autorité. On ne veut pas voir que la parole de Dieu est quelque chose de surnaturel déjà. Elle a une puissance de guérison, une puissance de transformation, une puissance de conviction, une puissance qui nous permet d'avoir notre âme nourrie. Mais ça ne suffit pas. Entre parenthèses, ça peut nous arriver aussi dans notre marche chrétienne. Pas vis-à-vis des autres, mais vis-à-vis de Dieu. C'est-à-dire que nous avons la parole, mais on demande à Dieu, oui, mais donne-moi des cailles, donne-moi autre chose, donne-moi peut-être plus d'argent, donne-moi
fasse que ma situation familiale s'arrange. Et ce sont des prières légitimes. Mais là où ce n'est pas légitime, c'est quand on pense que la parole de Dieu ne suffit pas. Vous voyez ? Normalement, la maturité doit nous amener, si évidemment nous sommes nourris et que nous sommes à un bon endroit où la parole de Dieu est correctement proposée, mais la parole de Dieu a cette capacité de nourrir notre âme parfaitement. À partir du moment où la parole de Dieu ne suffit pas, soit encore une fois parce que nous sommes mal nourris, soit parce que nous refusons la nourriture, il reste un vide dans l'âme que l'on va remplacer par des situations, des émotions, des attentes, etc. Donc il y a une frustration qui s'installe. Donc la meilleure façon de vivre une vie chrétienne relativement épanouie, ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas souffrir ou qu'il n'y aura pas de difficultés, mais la meilleure façon d'avoir une vie chrétienne épanouie et stable, c'est d'être nourri par la parole de Dieu. Et lorsqu'on est nourri par la parole de Dieu, nous sommes remplis du Saint-Esprit, parce que la parole de Dieu, c'est l'Esprit, d'accord ? L'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu, on voit ça dans Éphésiens. Donc, la parole de Dieu est suffisante pour remplir notre âme, et après, toutes choses nous sont données par-dessus. Et ce qui est très intéressant, c'est que si, regardez comment on peut voir les choses. Je mettons une vie de famille, elle peut avoir ses qualités, ses défauts. Lorsque je suis rempli par la parole de Dieu, je suis beaucoup plus reconnaissant pour ce qu'il y a dans ma famille, même si tout n'est pas parfait. Alors que lorsque la parole de Dieu ne me remplit pas, je vais avoir des attentes dans ma vie de famille et ça, je vais demander à ce que ma vie de famille comble peut-être un besoin dans mon âme. Et on peut multiplier ça à l'envi. Parfois, ça peut être le matérialisme, parfois ça peut être la connaissance, même dans le monde chrétien, hein, c'est la connaissance me remplit, mais on verra durant ces jours que la connaissance ne suffit pas. Et donc, nous avons besoin de vivre une vie chrétienne où la prédication, je dirais, de la parole, Jésus-Christ, suffit. Or, pour les pharisiens, ça ne suffisait pas. Il fallait des miracles, il fallait quelque chose. Et le problème aussi, c'est que, du coup, on ne vit pas par, selon une facette du fruit de l'esprit, qui est la patience. Parce que quand on recherche quelque chose d'extérieur à la parole dans le quotidien, on est impatient, parce qu'on a faim. On veut remplir notre âme. Il faut que notre âme soit rassasiée, satisfaite. Et ce qui fait que si la situation ne change pas selon notre point de vue ou selon nos désirs, on est frustré, donc on est impatient. En revanche, lorsqu'on est nourri par la parole de Dieu, ça nous permet de patienter. Imaginons que nous soyons invités, je ne sais pas moi, dans un mois, dans un des plus grands restaurants mondiaux. Hein, on nous a donné le menu, on sèche déjà les babines. Et donc, c'est bien. Mais en attendant, on a besoin de se nourrir quand même. Et ce que je vais manger à la maison doit me suffire. Parce que sinon, je ne vais pas patienter un mois. Pas parce que j'attends vraiment le menu de ce cuisinier, mais parce que j'ai besoin de manger. Et donc, si je ne suis pas nourri, je dirais de façon ordinaire, quotidienne, je ne peux pas attendre un mois. Qu'est-ce qui va me permettre d'attendre un mois ? C'est parce que je vais être nourri quand même en attendant, même si ce ne sera pas de la grande cuisine. Ben de la même manière, la parole de Dieu va me nourrir quotidiennement. Et c'est intéressant parce que lorsque Dieu a donné la manne, on ne sait pas exactement quel goût ça avait, mais en tout cas, c'était quelque chose d'ordinaire. Et qu'est-ce qu'a demandé le peuple ? D'écailles. Pourquoi ? Parce qu'ils n'étaient pas satisfaits du pain quotidien que Dieu leur donnait, de cette nourriture quotidienne qui, en fait, suffisait à les rassasier normalement. Ils pouvaient vivre dans le désert avec cette manne. Ils n'avaient pas besoin de plus pour vivre. Ils mouraient pas de faim. Et si Dieu avait décidé que c'était ça qui était bon pour eux et que plus tard ils seraient nourris par autre chose, ben c'est que c'était parfait. Non, ils ont commencé à murmurer. Pourquoi ? Parce qu'ils cherchaient autre chose. Et donc ça, c'est un point important, c'est qu'on pourra toujours chercher autre chose dans la vie. Il y a de quoi faire, hein ? Il y a de quoi s'occuper. Mais on a une nourriture qui est là, qui est disponible et que nous devons goûter. Et Jésus, comme souvent, avec sa grande sagesse, leur répond en leur disant « Mais moi, ouais, je vais vous donner un miracle, moi. Pas de problème. Mais ce sera le miracle de Jonas. D'accord ? Ça vous va ? D'accord ? Vous n'allez pas avoir des plus grandes mains, vous n'allez pas avoir des plus grandes oreilles, il n'y a pas un troisième pied qui va pousser. Ça n'a pas cette sorte de miracle, il n'y a pas là, de l'argent qui va fleurir dans votre jardin. Non, je vais vous donner le miracle de Jonas. » Et c'est intéressant parce que on lit dans les commentaires, et je suis d'accord bien entendu avec ça, c'est qu'il le dit, hein, il dit comme Jonas a été 3 jours dans le poisson, moi-même je serai 3 jours, donc on le sait maintenant dans la tombe. Et donc ça c'est le premier sens de ce qu'est en train de dire Jésus.
C'est-à-dire que il va y avoir la mort et la résurrection. Et ça, c'est un point important, d'ailleurs, parce que, et d'ailleurs, c'est une manière de discuter avec certains théologiens libéraux qui ne croient pas au miracle, hein, par exemple, où ils disent que ce sont des symboles pour nous faire comprendre une vérité, mais les miracles n'ont pas forcément eu lieu littéralement. D'accord, mais est-ce que tu crois dans la résurrection de Jésus-Christ ? Parce que ça, si tu ne crois pas au miracle, tu ne peux pas croire en la résurrection. Or, sans la résurrection, il n'y a pas de christianisme. Donc, si un chrétien, déjà, il peut croire au miracle s'il croit en Jésus-Christ. On ne peut pas faire autrement, je dirais. Donc, et c'est vrai, c'est le plus grand des miracles. Parce que, imaginons, voilà, ça, cette pièce, c'est notre existence. D'accord ? On vit sur la terre. Et on cherche des miracles. Donc, voilà, on demande à Dieu, admettons que Dieu réponde à nos demandes. Mais un jour, on va passer par cette porte, qui est la porte de la mort. Donc là, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Bah, selon la révélation biblique, il y a un jugement qui nous attend à cause du péché. C'est l'enfer qui nous attend tous. Et donc, là, on a besoin d'un miracle. C'est celui-là qui est le plus important. Et que s'est-il passé ? C'est qu'un homme, Dieu incarné, Jésus-Christ, a passé cette porte, il est mort pendant 3 jours, et il est revenu. Il est revenu par cette porte. C'est ça le miracle. Et peu importe s'il n'y a pas des miracles dans cette pièce, dans la pièce de mon existence, le plus important, c'est qu'il y ait le plus grand des miracles. C'est que Jésus est sorti du tombeau. Et ça, c'est notre espérance ce matin. C'est toujours la même chose, hein. On ne change pas le message, mais ne soyons pas familiers avec ce message. Que ça ne devienne pas une manne fade dans notre existence. Parce que la plus belle chose, quand même, à savoir, c'est que Jésus a vaincu la mort. Et ça, c'est miraculeux. C'est miraculeux. Et donc, il leur répond avec ça. Mais là, il y a un deuxième signe, quelque part, un sous-entendu que Jésus donne là. C'est que les pharisiens ont le même état d'esprit que Jonas. Parce que, souvenez-vous, et on le verra cet après-midi et ce soir, souvenez-vous, Jonas, quelle était sa réaction quand il a été appelé par Dieu à prêcher à Ninive ? C'est surtout pas hors de question. Et je démissionne, je m'en vais. Tu me dis d'aller à droite, je vais aller à gauche. D'accord ? Donc, on voit que Jonas était comme les pharisiens. C'est-à-dire que Jonas, on peut comprendre pourquoi, à la limite, Jonas a plus d'excuses. Mais on voit que comme les pharisiens, ces gens qui connaissaient la parole de Dieu, parce que Jonas la connaissait très bien. Lorsque vous lisez au chapitre 2 tout son psaume dans le ventre du poisson, dans le chapitre 3, on voit qu'il reprend presque mot pour mot les psaumes de David. Donc il connaissait très bien la parole de Dieu. Il l'avait même mémorisé. Parce que dans le ventre du poisson, il ne faut pas oublier qu'il n'y avait pas d'électricité. Hein. Moi, complet. Et donc il a mémorisé et il a invoqué le Seigneur. Donc il la connaissait, mais c'est pas parce qu'il connaissait la parole de Dieu qu'il connaissait le cœur de Dieu, pour autant. Et les pharisiens connaissaient la parole de Dieu mieux que la femme adultère, mieux que Zachée, mieux que le centurion romain, mieux que quiconque, mais ils ne connaissaient pas le cœur de Dieu. Et donc on voit que les pharisiens et Jonas sont dans le même état d'esprit. Donc le plus grand des miracles, c'est la résurrection, comme pour Jonas, mais en même temps, vous les pharisiens, vous êtes comme Jonas. Et il vous sera donné le même signe. Entre parenthèses, ça qui est intéressant et qui est humiliant, c'est peut-être bon de se rappeler, c'est que nous, on n'est peut-être pas Jonas. On n'est pas Jonas. Mais pensez à ça, quel est, selon la Bible, il y a peut-être eu d'autres situations qui ne sont pas mentionnées dans la Bible, mais quel est la plus grande nombre de convertis qui a eu lieu dans la Bible ? C'est Ninive. C'est-à-dire une ville entière qui se convertit. C'est-à-dire c'est mieux que Bilgrame. D'accord ? Mais qui a été l'agent de ce réveil ? Jonas. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est Dieu qui fait l'œuvre. Et donc, on peut être mieux que Jonas, selon notre point de vue. Mais même si on est mieux que Jonas, c'est toujours Dieu qui fait l'œuvre. Il ne faut jamais oublier ça. C'est que le résultat de notre disponibilité reste quand même lié à la puissance de Dieu dans notre vie. C'est-à-dire que nous ne sommes que des conduits, en fait. Alors, les conduits sont importants. C'est-à-dire, si vous avez loin un endroit et que quelqu'un doit ouvrir le robinet pour boire, il faut un tuyau. Mais celui qui va boire, il ne va pas boire du tuyau. Il va boire de l'eau.
C'est ça qui le garde en vie. C'est pas le tuyau.
Mais il faut le tuyau pour qu'il soit en vie aussi. Vous voyez le point? Mais c'est quand même l'eau à qui est à l'origine de notre subsistance. C'est la même chose pour la vie de Dieu. C'est-à-dire que nous sommes un conduit, un canal, mais s'il n'y a pas la puissance de Dieu, on n'est rien. Et Jonas, malgré lui, a été le canal de la puissance de Dieu, et Dieu est puissant, donc il est capable d'amener à la repentance une ville entière au travers de quelqu'un qui n'est pas content de ce qui se passe. Non mais Jonas, c'est ça, hein. Imaginez. C'est-à-dire, vous êtes là, je sais pas, on fait des concerts d'évangélisation, parfois, à Noël, ou... Donc imaginez, vous répétez à la chorale, les musiciens répètent, etc. Mais ils ont pas envie d'être là, parce qu'ils aiment pas les gens, etc. Et ils disent, ouais, on fait le concert, alors pourvu qu'ils se convertissent pas. Imaginez, il y a le pasteur qui fait l'appel au salut, pourvu qu'il lève pas la main. Jonas, c'est ça. C'est ça. À la fin, il va même dire, je savais que tu étais miséricordieux. Voilà, 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 voilà. Je le sais. Mais nous, est-ce qu'on est prêt à communiquer le pardon à nos ennemis? Ouais. C'est-à-dire que l'inconvénient de la connaissance de la parole de Dieu, c'est que ça peut nous amener à être comme des élites. Moi, je sais. Moi, je suis instruit, moi. La plèbe ne sait pas. Et du coup, on se retrouve à être engoncé, enfermé avec des savants, des gens qui connaissent, un entre-soi. Mais on parle de la parole de Dieu. Ouh là là, on en parle. On en parle entre nous. Qu'est-ce qu'on se communique la vérité? Mais est-ce qu'on... C'est bien, hein, en demeurant, faut continuer, mais je veux dire, c'est bien aussi de la communiquer à l'extérieur. Parce qu'il y a peut-être des ninivites. Et donc, les pharisiens, ils sont devenus, donc, en rapport avec la loi, élitistes en pensant que c'est ça qui va plaire à Dieu. Et cet élitisme, on peut le retrouver, alors c'est classique dans toute l'histoire de l'Église, on a vu ça. Par exemple, au niveau des dénominations, hein, c'est nous qui avons raison, les autres, les pauvres. D'accord? Ou alors certains frères et sœurs prennent des décisions dans leur vie qui nous paraissent un petit peu iconoclastes, et alors on se dit, ah, non, c'est pas possible, Dieu peut pas... Mais Dieu peut parfois. Quand bien même on a raison sur les choix que les gens font, mais il se trouve que Dieu va quand même les utiliser. C'est un mystère. Je me rappelle, si vous connaissez Éric Duchamp, pour certains, et son épouse, mais Éric Duchamp, il a été évangélisé par quelqu'un qui était dans notre église, et qui avait quitté l'église, et il allait nulle part, voilà, il vivait sa vie, mais c'est un évangéliste, il ne peut pas s'empêcher de parler de Dieu. Et un jour, il pleuvait, ils étaient tous les deux réfugiés sous un abribus, et il a commencé à évangéliser Eric, et je ne sais plus s'il s'est converti à ce moment-là, j'en sais rien, mais en tout cas, c'était la première phase, et il lui a indiqué notre église, en disant, il faut aller à cette église. C'est lui, il n'y allait plus. Et que s'est-il passé? Il y a eu une conversion. Alors que tous ceux qui vont à l'église trois fois par semaine, qui vont à toutes les réunions prières, peut-être qu'ils n'aiment pas quelqu'un à Christ. C'est-à-dire qu'on ne peut pas calculer Dieu. On ne peut pas le maîtriser, c'est un mystère. Je dis pas, et ça n'empêche pas que la vie que vivait cet homme n'était pas forcément la bonne. Mais en même temps, n'ayons pas un esprit de jugement, on ne sait pas. On ne sait pas. Et Dieu va s'amuser parfois à prendre des gens qui ne méritent pas de porter du fruit. À des gens qui, eux, prêchent la grâce, mais qui se disent, comment ça se fait que Dieu est gracieux avec celui-là? C'est ça le problème. Parce que la grâce à des gens qui ne pêchent pas, c'est plus la grâce, hein. C'est du mérite. Et Dieu s'amuse parfois, tout comme il l'a fait, avec aussi de son temps avec les apôtres, qui sortaient de nulle part. Mais où est-ce qu'ils ont étudié, eux? Le gars, il s'est tapé de la théologie, il a mémorisé des versets par cœur, et ça, je veux dire, la Bible, il la connaissait. Hein. Et ils ont sué pour arriver là où ils étaient. Et puis d'un seul coup, il y a quelqu'un qui, lui, va toutes les nuits à la pêche. Et d'un seul coup, il sort là, et il prêche avec autorité, acte 2. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas juste. Ben oui, mais si Dieu était juste, d'une certaine manière, c'est alors selon les œuvres, où serions-nous? C'est-à-dire qu'on oublie que c'est une grâce qui nous a été donnée. Jonas a oublié que c'était une grâce qui lui avait été faite. C'est-à-dire, vous avez quelqu'un qui naît là, un qui naît là, un qui naît là, et Dieu dit à Jonas, toi tu seras un prophète. C'est une grâce extraordinaire, c'est pas parce qu'il était meilleur que les autres. Et nous, c'est pareil. On est le résultat de la grâce de Dieu. On n'est pas le résultat. Alors, nos décisions sont importantes. Hein. Je ne dis pas le contraire, mais faisons attention. Et c'est intéressant parce qu'on voit cet état d'esprit de comparaison, de clan, dans Marc 9, versets 38 et 40. Donc, les apôtres prêchent et tout ça. Ils ont eu un mystère avec Jésus. Et Jean lui dit, « Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, dis donc. » Et nous, le dis donc, j'ai rajouté. Hein. C'est un commentaire, en fait. Hein. C'est une traduction à équivalence dynamique. Hein. Donc, et nous l'en avons empêché. Vous voyez, c'est comme si là, il y avait d'autres dénominations, puis à côté, il y a une autre dénomination qui prêche au nom de Jésus. Vous n'avez pas le droit de marque déposée. Jésus, c'est nous qui avons le droit d'utiliser. C'est nous, toi, tu n'as pas le droit. Donc, il dit, nous l'avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Ah, le nous est intéressant. Est-ce que ça inclut Jésus ou ça inclut les apôtres? Et le problème, c'est nous, en fait. Alors, je ne dis pas qu'on est comme ça, mais ça peut arriver qu'on soit comme ça. C'est que nous, on en bave. Nous, on a fait les meilleurs choix. Nous, tu vois. Et donc, eux, c'est pas juste. C'est pas juste. C'est un peu comme quand les missionnaires américains sont arrivés en France, vous savez. Tout le monde fait des erreurs, bien sûr, mais alors il n'y a pas qu'eux qu'on fait des erreurs. Je ne vous dis pas les autochtones. Mais parce que c'est quoi? Mais pour qu'ils se prennent, l'institut théologique? Mais on en a, nous, des instituts théologiques. Et oui, et alors? Je veux dire, montrez-moi les fruits, si ça suffit. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas de fruits. Mais on ne peut pas dire qu'à l'époque, la France était une terre de réveil, dans les années 80. Et les statistiques officielles, à l'époque, c'était que 80%, alors c'est facile à retenir, à l'année 80, 80% des nouvelles églises étaient fondées par des pasteurs américains. Oh, merci. Merci. Est-ce qu'on les remercie? Est-ce qu'on est reconnaissant? Non, on est xénophobe, anti-américain, comme les païens. Pareil. C'est américain, donc c'est pas bien. Vous voyez? Mais les gens ne voyaient pas derrière. Et aujourd'hui, il y a plein d'églises qui sont reprises par des Français. Voilà, celles sont devenues françaises vraiment. Mais qui sont issues de ces ministères qui ont commencé dans les années 80. Mais j'ai jamais vraiment entendu beaucoup de reconnaissance de la part du milieu chrétien francophone. Et pourquoi? Parce que c'est marque déposée. Nous, on était là avant. Alors, des fois, ça va même plus loin. Je veux dire, il y a des missionnaires évangéliques qui ont des gros problèmes en Arménie. Parce qu'en Arménie, c'est une branche du christianisme particulière. Pour eux, le pays est christianisé. Il n'y a pas besoin que les gens viennent. Donc, dehors, il n'y a rien à voir. Marque déposée. Mais on peut être un peu comme ça. On peut être comme ça aussi dans son propre ministère. Je travaille dans l'église. Là, c'est ma place, c'est mon truc. Et je ne peux pas accepter que quelqu'un de plus jeune, plus novice, puisse être utilisé par Dieu. Alors que par pure grâce, alors, je dirais, c'est pour pas rentrer dans un système de comparaison, mais ça peut arriver que quelqu'un arrive là et Dieu met sa main sur cet homme ou sur cette femme, et voilà, en peu de temps, il se passe quelque chose de miraculeux. Et donc, d'un côté, on prie pour que Dieu envoie des ouvriers dans la moisson, et quand les ouvriers arrivent, qu'est-ce que je veux dire? Donc, il ne nous suit pas. Et Jésus répond, « Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. Qui n'est pas contre nous et pour nous ?» Jésus relaxe. Il est relax. Il est Dieu fait homme. Genre, normalement, Dieu est là, sur place, tu le suis. Tu ne vas pas faire ton truc de ton côté, même si c'est le même message. « Non, moi je vais le faire. » Jésus dit, « Pas de problème. » Pas de problème. Relax. Et Paul est pareil. En Philippiens, je n'ai pas pris tout le passage, mais si vous lisez les versets d'avant, il dit qu'il y en a qui prêchent par esprit de parti, d'autres pour le gain sordide, etc. Et au verset 18, il dit « Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence... » Et c'est fort, ça. Imaginez que des gens prêchent par apparence. Ah oui, mais ce n'est pas la vérité au fond du cœur. Je connais le verset, hein. Que Dieu veut, c'est la vérité au fond du cœur. Donc l'apparence, ça marche pas. Eh bien, si, ça marche. De toute manière, que ce soit par l'apparence ou que ce soit sincèrement, c'est bien, je peux prêcher sans être sincère, dis-donc. C'est pratique, quand même, hein, regardez. Christ n'est pas moins annoncé. Hein ? Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore.
Relax. Relax. Et pourquoi ? C'est le business de Dieu. C'est le business de Dieu.
Et c'est intéressant parce que la loi...
et on est comme ça, que ça soit avec nos proches, de façon générale. La loi, elle dit, sois parfait et meurs.
D'accord, parce que personne ne peut accomplir les standards. Et, mais ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que le chrétien, lui, normalement, il doit avoir une autre pensée. La loi dit, sois parfait et meurs. Mais Jésus a été parfait et il est mort.
Et il a été parfait, mais il est quand même mort, parce que nous, nous n'étions pas parfaits, selon la loi, et nous devions mourir.
Donc l'attente qu'on a envers nous-mêmes, mais envers les gens, qui consiste à dire « sois parfait » ou alors hein, « quick », c'est oublier que quelqu'un était parfait à la place de celui qui ne l'est pas. Et que lui est mort. Donc ça a déjà été fait. Hein. La sentence est déjà tombée, en réalité. Parce que nous, même avec nous, on est tellement perfectionnistes, parfois, que... Vous m'entendez ? Ça va ? Mais on est tellement perfectionnistes qu'on ne se fait pas de cadeaux. On se tue à petit feu. Moi, je suis étonné, que ce soit dans mon cœur, mais dans la vie des gens. Les chrétiens, des fois, ce sont les plus coupables dans leur manière de vivre. Alors, on devrait être libéré, épanoui, content. Et il y a une logique à cela. C'est-à-dire que plus on avance dans la vie chrétienne et qu'on étudie les Écritures, plus on connaît la volonté de Dieu. Donc, d'une certaine manière, ça nous rend de plus en plus coupables. C'est « Ah bon, ça ne fallait pas le dire, oh, je ne savais pas, ça ne fallait pas faire, oh, je ne savais pas. » On s'aperçoit qu'en avançant dans la vie chrétienne, on est pire que ce qu'on pensait. Donc, d'une certaine manière, c'est vrai. Oui, mais il y en a un qui est mort pour tous. Donc, tous sont donc morts de Corinthiens 5. Donc, c'est fait déjà. Vous voyez, donc, s'il n'y a pas la grâce qui accompagne la vérité nous tue. Plus on rentre dans la vérité, plus ça devient pénible. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens qui abandonnent. Parce qu'ils n'en peuvent plus. Vous savez, c'est pour ça, faites attention les prédicateurs, quand vous prêchez, c'est ne parlez pas d'Adam en permanence. Hein, il y a ça qui ne va pas, nous on est comme ça, nous on cherche l'argent, ce monde est pourri, vous serez toujours déçus, nous on a un cœur pourri, qui peut le connaître. Ouais, au bout d'un moment, tu peux nous parler de Jésus, un peu, d'accord ? Tu peux nous parler de Jésus, c'est qu'on a besoin de glorifier Jésus-Christ, d'accord ? Plutôt que de prononcer une sentence sur Adam en permanence. Bien sûr, la sentence doit être prononcée, mais on a compris, pas besoin d'un deuxième bourreau, d'accord ? Non, mais c'est ça, notre espérance, elle est en Christ. Et il faut que nos messages soient toujours christologiques. Qu'est-ce que ça signifie ? C'est que, alors là, on ne va pas prendre cette porte-là, on va prendre cette porte-là, elle est plus large en plus, ça correspond à l'illustration. C'est que quand on sort de l'église, on a besoin d'une porte où Jésus nous accueille dans ce monde. On dit voilà, j'ai une solution pour ma vie, c'est Christ. C'est pas simplement tu m'as dit ce qui n'y allait pas dans la semaine. C'est voilà, je sors, il y a une espérance. C'est pas et alors, qu'est-ce que je fais ? C'est je sais, il y a une direction. C'est intéressant parce que quand. Alors je sais que c'est très raccourci, c'est très. Ouais, c'est du concentré, mais quand Jésus appelle Pierre, par exemple, Pierre dit « Malheur à moi, je suis un homme pécheur ». Il sent là qu'il y a un abîme entre lui et la sainteté de Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que Jésus propose tout de suite ?« Je te ferai pécheur d'homme », une vision, quelque chose. C'est pas « Oui, c'est vrai, non, excuse-moi, je te laisse continue de pécher, c'est vrai, non, c'est pas pour toi ». Imagine, on pourrait faire un sketch, hein. Jésus arrive dans le monde, à ce point-là, ils sont pourris à ce point-là, non. Papa, tu peux noyer quelqu'un un peu du meilleur, là, il cherche des disciples, non, c'est pas possible, Jésus, c'est pas possible. Non, pourquoi ? Parce que Jésus croyait dans la puissance qu'il y avait en lui et en son Père, par le Saint-Esprit. Donc, il a été chercher des gens disponibles et qui étaient le réceptacle de la grâce de Dieu. Voilà. Et il a même fait appel avec Paul, alors là c'est encore plus... Et là on a la même chose, c'est-à-dire que quand Jésus parle aux pharisiens, il dit il n'y aura pas d'autre signe que Jonas, et ensuite il leur parle de Ninive en disant cette génération-là de Ninive,
Elle va vous juger. Et pourquoi? Parce que rappelez-vous, en tant que chrétien, quand on voit ça dans Corinthiens, nous allons participer au jugement de Dieu. On jugera même les anges. Donc, on a une autorité. Et les Ninivites aussi en ont une. En disant aux pharisiens, quoi, vous n'avez pas accepté le Messie? Alors que nous, même un Jonas, on a vu la main de Dieu derrière lui. Même un Jonas, un gars qui n'avait pas envie de parler, qui n'avait pas envie de venir nous voir, ben, on a vu quand même la main de Dieu. Et là, il y avait le Messie, et vous n'avez pas vu la main de Dieu? Vous n'êtes pas repenti? Et en fait, Dieu a manifesté, et là c'était le problème de Jonas, comme les pharisiens, sa miséricorde aux habitants de Ninive. Et de la même façon, Jésus voulait accueillir les pécheurs, quels qu'ils soient. Et vous savez, on en parlera des Ninivites, mais vous êtes d'accord avec moi que la miséricorde de Dieu est quand même extraordinaire, la grâce de Dieu est extraordinaire, pour qu'il envoie Jonas à Ninive. Mais d'accord. Mais elle n'est pas suffisante, cette grâce, pour nous, alors. C'est-à-dire qu'on est pire que les Ninivites, d'une certaine manière, où la grâce de Dieu, elle a des limites. C'est que si on croit que c'est extraordinaire que Dieu ait pu aller chercher les Ninivites, ben croyez que Dieu est aussi extraordinaire d'aller vous chercher et de continuer de vous pardonner jour après jour. C'est le même Dieu. C'est le même Dieu. C'est le même Dieu qui accueillait les pécheurs au temps de Jésus. C'est le même Dieu. Et c'est ça qui nous amène à l'humilité. L'humilité, ça ne se fabrique pas. Sois humble. Ça, c'est la loi. Mais c'est reçois la grâce de Dieu qui te rend humble. D'accord ? Et qui transforme ta vie. Et donc, on voit là que Jésus, il a fait quelque chose de beaucoup plus grand. On le sait, il est mort à la croix. Et donc, un point qu'avaient pas compris Jonas et aussi les pharisiens, c'est que si vous voulez, ou les dénominations, les clans, etc., dans les églises, c'est que si vous voulez, nous, on élève des murs et on ferme les portes. Voilà. Alors, ça va, je veux dire, là, ça peut être le racisme, la xénophobie, ça peut être, je sais pas, moi, entre classes sociales. Hein, moi. Pour ça, il y a des mouvements chrétiens, je ne supporte pas. Parce qu'il faut avoir un certain statut social pour y rentrer, il faut être même coopté, comme les francs-maçons. C'est-à-dire, je ne supporte pas ça. Je veux dire, ils font un travail d'évangélisation, etc., c'est très bien, mais il faut être riche. Il faut avoir un certain statut. Il n'y a pas d'ouvriers dans ces milieux-là, etc. Je n'aime pas du tout cet état d'esprit. Est-ce que Dieu ne les utilise pas? Si, il les utilise, parce qu'il est gracieux, mais le fondement n'est pas correct quand même, je n'irai jamais et je n'enverrai jamais des gens dans ces mouvements. Et inversement, s'il y avait des mouvements où il faut être smicard pour pouvoir y rentrer, c'est pareil. D'accord? Ça n'a pas de sens, c'est pas le cœur de Dieu. Donc on élève des murs, mais on élève des murs même dans nos maisons. Hein, il n'y a pas que la cuisine, la salle à manger, la chambre, la salle de bain. Il y a aussi les murs entre nous, dans les familles. On élève des murs. On se parle plus. On ferme la porte même à toute communication. On prie pas ensemble. On ne se pardonne pas les uns les autres. Ça peut être dans les églises. On élève des murs en permanence. Et les pharisiens avaient élevé des murs. Qui étaient liés d'ailleurs. Alors c'est intéressant parce que on va toujours utiliser, quand on est élitiste, la parole de Dieu pour justifier nos actes. Dieu avait dit dans l'Ancien Testament que sur le parvis du temple, il y avait comme des murs, alors ce n'est pas des murs, c'est des murets, si vous voulez, qui séparaient la cour du temple. Il y avait un espace pour les juifs hommes, un espace pour les femmes, les juifs, les femmes juives, et un espace pour les païens, qui avaient le droit de s'approcher quand même, d'entendre, de participer, même de se convertir éventuellement. Donc il y avait trois endroits différents. Et on le sait, on voit ça dans Éphésiens, je vais vous lire le passage, Éphésiens 2, versets 14 à 18, il est dit, car, en parlant de Jésus, il est notre paix, lui qui des deux, alors quand il est des deux, là il parle avant, il oppose les païens et les juifs. Lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation et il lui donne un nom à ce mur, l'inimitié. Parce que le problème, c'est que s'il y a inimitié avec notre prochain, il y a des murs qui s'élèvent. Forcément, une rancœur, manque de pardon, il y a quelque chose qui se lève. Et ensuite, il continue, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Ça veut dire quoi? C'est que moi, je suis juif. Donc je suis dans le carré des juifs, t'as pas le droit de rentrer. Pourquoi? Parce que moi j'ai la loi et je la mets en pratique, toi t'es païen. T'as pas la loi, donc t'as pas le droit de venir. Donc il y a une inimitié qui s'installe. Et encore une fois, ça peut être comme ça dans nos maisons. C'est moi je suis spirituel, toi tu ne l'es pas. Clac, mur de séparation. Tu as péché, je peux te le prouver bibliquement. Mur de séparation. Oui, mais la Bible dit autre chose aussi dans notre comportement avec le pécheur. Elle dit pas, elle ne donne pas qu'un constat, elle nous donne aussi une solution. Elle nous offre une solution. Et donc, il y a tout ça qui s'élève entre nous. Je le disais tout à l'heure, entre les deux illuminations, etc., etc. Et donc, afin de créer en lui-même, avec les deux, donc là, dans ce contexte, c'est païen et juif, un seul homme nouveau. Vous voyez, là, dans ce contexte, l'homme nouveau, c'est pas moi individuellement. L'homme nouveau, c'est Jésus-Christ la tête et le corps de Christ, les membres. Donc, l'homme nouveau, il a été fait avec des juifs et avec des païens. C'est ce que Paul le dira aussi autrement dans l'Épître aux Romains, c'est la greffe qui a été greffée à Israël. Et de les réconcilier, et oui, inimitié engendre ensuite, si le mur tombe, réconciliation. C'est pour ça d'ailleurs qu'en Philippiens, il dit « Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation ». On ne nous a pas donné le ministère de l'accusation. C'est un autre qui a ce ministère-là, que Dieu ne lui a pas donné d'ailleurs, mais il ne se gêne pas pour le... C'est le diable qui accuse les frères jour et nuit. Apocalypse 14. Et donc, il est réconcilié l'un avec l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix. C'est par la croix que la réconciliation a lieu. C'est pas par notre bonne volonté. C'est pas par nos bonnes intentions. C'est pas par une œuvre. C'est par la croix. C'est-à-dire par un jugement qui a eu lieu et qui fait que le mur est tombé. Par la croix, en détruisant par elle l'inimitié, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, c'est-à-dire les païens, les Éphésiens, et la paix à ceux qui étaient prêts, les Juifs. Et c'est ce que nous voyons, c'est-à-dire que Jésus a annoncé la paix en Israël, vous l'avez lu, hein, il fallait même prêcher qu'aux brebis de la nation d'Israël, ils étaient prêts, mais Dieu avait envoyé Jonas à ceux qui étaient loin aussi. Et il dit aux pharisiens, il n'y aura pas d'autre signe que celui de Jonas, à qui il a été demandé d'annoncer la paix à ceux qui étaient loin. Et vous, vous n'êtes même pas capable d'annoncer la paix à ceux qui sont prêts. Parce qu'il le dit par ailleurs, vous, les pharisiens font porter un joug sur les gens que eux-mêmes ne peuvent pas porter. Et on fait pareil. On exige des autres ce que nous, on ne fait pas. On est blessé que les gens ne fassent pas ce qu'on attend d'eux. On attend d'eux, mais nous, on ne fait pas la même chose pour eux, parfois. Et donc, c'est pas juste. Par lui, nous avons les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Et donc ce point est intéressant, c'est-à-dire que il a renversé, lui qui est notre paix, et il a renversé le mur de séparation, ayant anéanti par sa chair les lois et les ordonnances. Donc quand je commence à avoir des exigences particulières, j'élève des murs en permanence. Et ce qui fait que je me pose en juge, et la vie chrétienne devient très compliquée pour moi, mais aussi pour les autres. Et c'est intéressant parce que quand on regarde, alors les pharisiens connaissaient bien la loi, vous savez en Lévitique chapitre 1 à chapitre 7, vous avez tous les sacrifices, dans chapitre 5 pardon, tous les sacrifices pour s'approcher de Christ. Vous avez, alors imaginons que vous ayez Dieu ici et vous ayez le pécheur là-bas, ils sont notés dans l'ordre d'importance du point de vue de Dieu. Donc vous avez d'abord l'Holocauste, premier sacrifice, qui est le sacrifice de Jésus-Christ parfait offert au Père. J'en parlerai après. Deuxième sacrifice, c'est pas un sacrifice. Le deuxième, c'est vous avez le sacrifice de, enfin, l'offrande de gâteau. Après, vous avez le sacrifice de communion qui va être apporté en même temps que l'offrande de gâteau. Et puis après, vous avez le sacrifice pour le péché. Et après, vous avez le sacrifice pour les péchés. Et donc, c'est graduel, si vous voulez. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas avoir un ministère envers nous sans passer par le sacrifice entier de Jésus-Christ d'abord. Il faut commencer par le sacrifice de Jésus-Christ. Par contre, de notre point de vue, on arrive de l'autre côté, et le premier sacrifice qui importe, c'est le sacrifice pour les péchés. C'est-à-dire que je confesse mes péchés, et je m'approche, commence à m'approcher de Dieu. Ensuite, il y a le sacrifice pour le péché. Là, je réalise que les péchés sont liés à ma nature pécheresse. Et donc, je suis mort en Christ. Ensuite, ben une fois que les péchés sont traités et que j'accepte ma mort en Christ, il y a le sacrifice de communion, c'est-à-dire j'ai communion avec Dieu maintenant. Et donc là, j'apporte un sacrifice de reconnaissance en même temps que l'offrande de gâteau. Parce que l'offrande, bon, j'en parlerai peut-être une autre fois, je n'aurai peut-être pas le temps maintenant. Et à la fin, je réalise que c'est Christ tout entier qui me permet d'avoir accès à Dieu, c'est-à-dire que je prie au Père par Jésus-Christ Parce que comme le souverain sacrificateur, je suis sur les épaules de Jésus, hein, les 12 tribus d'Israël, où il y avait les 12 pierres, là, qui représentaient les 12 tribus, ben, je peux m'approcher de Dieu par Jésus-Christ. Donc voilà les sacrifices. Mais pour l'Holocauste, c'est très intéressant, c'est qu'il fallait, on va lire, hein, c'est Lévitique chapitre 8, verset 1 à 4, parce que chapitre 1 à 5, de mémoire, c'est les 5 sacrifices qui sont décrits, et puis après, chapitre 6, 7, 8, il donne des précisions sur la manière dont les sacrifices doivent être exécutés. Et donc, en Lévitique 8, verset 1 à 4, il est dit, « L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends Aaron, donc ça représente Jésus-Christ, hein, et ses fils avec lui, les vêtements, donc ça c'est important, c'est-à-dire que c'est une justice parfaite, l'huile d'onction, parce qu'il faut avoir la présence de Dieu sur l'Holocauste, c'est-à-dire que c'est un sacrifice agréé par Dieu, et Jésus-Christ était oint pour accomplir ce sacrifice. Il avait l'onction de Dieu pour le faire. Le taureau expiatoire, qui préfigure Christ, sachant que le taureau, c'était l'animal le plus cher, hein, c'était le sacrifice le plus excellent, mais aussi les deux béliers, pour ceux qui avaient moins d'argent, et la corbeille de pain sans levain, ça part du corps de Christ sans péché, qui a été brisé pour nous, et convoque toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Et c'est pas un hasard que ça soit à l'entrée. Parce que la tente d'assignation, donc à l'époque, le temple n'était pas construit, ils n'étaient pas en Canaan, ils étaient dans le désert. Donc vous aviez la tente où les prêtres, imaginez que vous ayez une tente, là, voilà, c'est les prêtres officiels, il y avait le lieu très saint et le lieu saint. Et puis à l'extérieur, il y avait une sorte de parvis et qui était entouré par des tissus en fait. Hein. Et puis dehors, il y a le désert, le peuple était dehors. Et c'est à l'entrée de cette toile, de cette porte, d'ailleurs c'est intéressant parce que la toile était tendue tout autour et la porte, ce n'en était pas une puisque c'était des tissus. Vous aviez le tissu qui était tendu et puis vous aviez un rideau en plus qui servait de porte. Et c'est très intéressant parce que vous aviez des millions de personnes qui habitaient autour. Hein. C'était dans le désert, la tente d'assignation, il y avait des milliers de personnes, millions de personnes. Ils arrivaient avec leur sacrifice, mais pour entrer, c'est comme si c'était un rideau, il n'y avait pas de bruit. C'est entre moi et Dieu, quoi. Je rentre. C'est pas... C'est dans l'intimité, en fait. On rentre comme ça. Mais là... C'était un sacrifice d'expiation. Le locus, ça représente Jésus-Christ. Et c'est très intéressant, c'était à la porte. Pourquoi? Parce que c'est une porte où l'entrée est inaccessible à cause du péché. Il y avait un mur de séparation entre Dieu et le peuple. Et la seule façon d'entrer, c'était par cet holocauste qui avait lieu là. Et qu'il fallait immoler, gorger. Le point qui est intéressant, c'est qu'il est dit, j'ai pas noté tous les versets, mais si vous lisez la suite, ce sacrifice, il est dit qu'il est fait devant l'Éternel. L'Holocauste, pas les autres sont différents, mais l'Holocauste, celui qui représente Christ, c'est-à-dire pour Dieu, la première étape pour nous accepter ou venir jusqu'à nous, c'est par Christ. Ce sacrifice, c'était entre le Père et le Fils. C'était pas quelque chose qui nous concernait en réalité. Et vous savez, ça me fait penser à cette illustration. Imaginez que on est différents, il y a des discussions. Toi, tu as commis quelque chose, ça va pas bien, dans ta vie, ou je sais pas, ou j'ai des dettes, peu importe. Puis on est là à discuter, qu'est-ce qu'on va faire et tout. Puis d'un seul coup, je te dis, viens voir. Puis je te prends avec moi, et là, de l'autre côté de la porte, je dis, bon, voilà, elle a fait des bêtises et tout ça, mais bon, je paierai sa dette et tout. Voilà. On va s'arranger, etc. Et puis on ressort, on dit bon, c'est bon, problème réglé. C'est ce qui s'est passé entre le père et le fils. C'est-à-dire que le fils s'est offert au père, il a reçu le jugement, ça a été entre le père et lui, quoi. C'était une affaire de famille. Nous, on n'est pas concernés. C'est, voilà, je meurs pour l'humanité. Mais je meurs pour Michel Texier aussi. Il a parlé de moi au père. Et il est ressorti du tombeau. Et je suis justifié. Le problème est réglé. La dette est réglée. Il n'y a plus de problème. C'est ça la réalité. Et trop souvent, nous, à cause des murs de séparation, on est comme les pharisiens. T'as vu, il a fait ça, ouais, il a fait ça, ouais, je sais, j'ai prié pour lui. Moi, je lui ai parlé, enfin. Alors, encore une fois, je ne dis pas qu'on ne va pas avoir un ministère envers les gens, mais quelle est l'attitude de cœur? Est-ce que c'est pour se satisfaire de l'injustice propre en disant, moi, je ne suis pas comme lui? Ou est-ce qu'on a un cœur de compassion en disant, mais problème avec les églises, là, c'est dommage. C'est dommage. Et du coup, on a une manière de parler qui est de tout ordre,
enfin, qui est différente. Et dans nos familles, par exemple, dans nos églises, c'est la clé, c'est le fondement. C'est pour ça, d'ailleurs, que quand on a lu tout à l'heure Éphésiens, il a dit, car il est notre paix, lui qui des deux n'en fait qu'un, et qu'il a renversé le mur de séparation intimité, ayant anéanti par sa chair, c'est-à-dire que c'est tout en Christ que les choses ont été faites. C'est pas nous, on n'a pas pris part à ça. C'est-à-dire que la porte d'entrée était fermée, c'était pas une porte d'entrée en fait, mais par Jésus-Christ, c'est devenu une porte d'entrée. Christ est notre porte d'entrée. Et nous, s'il y a des inimitiés entre nous, c'est par Christ qu'il peut y avoir une entrée, qu'il peut y avoir un pardon, qu'il peut y avoir une réconciliation, qu'il peut y avoir quelque chose. Et au verset 3, 2, je reviens à Lévitique 8, où il est dit, n'oublions pas, il fallait que l'animal soit sans défaut. Un défaut disqualifiait l'animal. Imaginons que, bon, moi, j'ai, en plus, j'ai pas mal travaillé à la campagne, quand vous voyez une bête, de loin, vous reconnaissez une bête qui est en bonne santé, là, bien constituée, les crayons en bon état, les cornes, les yeux, les dents, vous regardez tout ça. Ah, super, ça va être une belle femelle, là, ça va faire des beaux petits veaux, des vieux, comme ils disent en Normandie. Et puis, vous regardez, une tâche, je n'apprends pas. Mais Christ, c'est parfait. C'est parfait. Et nous, on se regarde et on ne voit pas qu'une petite tâche. Nous, on est une vache archétype, là, nos œuvres, nos vies, là, ce qu'elle vaut, nos vies, on ne marche pas droit. Hein, on a un litre de lait par jour. Ça me revient maintenant. Je me rappelle, il y avait une vache dans le troupeau. Vraiment, elle donnait du lait, c'est là, c'était génial. Mais, à un moment donné, elle a chopé comme une sorte de cancer à l'œil. D'abord, c'était un kyste, puis on voyait, ça grossissait, etc. Et on est obligé d'envoyer l'abattoir. Alors qu'elle donnait 17 litres de lait le soir. C'est-à-dire, il fallait que je vide deux fois le seau. Mais on est obligé de l'abattre, pourquoi? Parce que ça allait gangréner toute la viande et elle. Dans quelques semaines, quelques mois, elle ne voudrait plus rien. Elle serait plus bonne pour la viande. Donc il a fallu l'envoyer alors qu'elle produisait. Et nous, on est là, mais je produis, regarde le lait que je produis. Mais t'as une paille dans l'œil, une poutre, t'as quelque chose là, qui gangrène. En fait, c'est qu'on est tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu. C'est ça qu'il faut réaliser. Et lui est le sacrifice parfait qu'aurait dû. Lui, il aurait dû profiter de la vie. Mais non. Il est venu à l'entrée, à la porte du ciel, comme le taureau à la porte, à l'entrée de la tente d'assignation. Et il dit, moi, je viens un problème. Père, je viens avec un problème. Ça, c'est notre Dieu. Et combien de fois on est comme des Jonas ou des pharisiens? Et non, il faut élever un mur, là. C'est fou parce que ce comportement-là nous donne l'illusion qu'on est des maçons. Alors qu'en fait, on détruit. On a l'impression de construire, en fait, on détruit. On défend la cause de Dieu, on défend la Bible, mais en fait, on détruit. On n'a pas un ministère de réconciliation. On ne s'édifie pas. Et je pense aussi à nos pensées, hein. On est comme ça vis-à-vis de nous-mêmes, aussi, trop souvent. En fait, on recherche la perfection. Ça, c'est le problème. On recherche la perfection. Et en soi, mais des fois chez les autres aussi. Quand nous on fait une erreur pour justifier, ça arrive, j'ai pas fait exprès. Mais quand l'autre fait la bêtise, toi t'aurais pas dû. Vous voyez, c'est que on vit sous une justice qui n'est pas la justice en réalité. Alors qu'il faut regarder Jésus-Christ comme on regarderait un animal, un holocauste présenté à la tente d'assignation, qui était parfait et qui est mort à notre place. La perfection elle est en Christ. Elle n'est pas en nous. Mais la perfection peut se manifester dans des vases de terre. Elle peut se manifester dans des vases vides. Enfin, vides, vides. C'est-à-dire qui, normalement, ne devraient pas être utilisés pour ça. Mais Dieu n'a pas honte. Il veut des gens disponibles. Je veux que l'or, le trésor, soit dans des vases. Les pharisiens, eux, avaient des jolies vases, c'était des jolies vases, mais ils ne voulaient pas Jésus à l'intérieur. Les autres, un apôtre Paul, qui était du même acabit avant, l'apôtre Paul, quel qu'il ait pu faire avant, il a accepté la grâce de Dieu. Et ce qui a fait la différence. C'est fou parce que en Ésaïe 53:2, 3:10, je vous parlais tout à l'heure du fait que c'était entre Jésus et le Père. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. C'est fort ça quand même. Hein. Je veux dire, si notre Père faisait ça, qu'est-ce qu'on dirait? Ça lui a fait plaisir. C'est pas exactement ça, mais en tout cas, c'était sa volonté. Il a pu être un... De le briser, ça c'est déjà... Comment? Par la souffrance. Mais pourquoi ça lui a plu? Parce que Dieu nous aime. C'était ça l'échange. C'est pas parce que le Père est sa vie vis-à-vis de Jésus-Christ, bien sûr. Ça, c'est un blasphème. Mais c'est parce que le Père nous aime tant, alors qu'il aimait tant son Fils, ça lui a plu quand même de le briser parce qu'il nous aime tant. Et comment? Par la souffrance. Ça veut dire que, alors qu'ils étaient, l'affaire se faisait entre le Père et le Fils, l'Holocauste parfait, la première étape pour que Dieu accepte l'homme. Ben, ça signifie que Pilate, c'est le Père qui a permis qu'il soit là. Judas, c'est le Père qui a permis qu'il soit là. Les pharisiens, c'est le Père qui a permis qu'il soit là. Le gars qui a fouetté Jésus-Christ avec tant de haine, c'est le Père qui a permis qu'il soit là. Parce que ça a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance pour nos péchés. Les deux, trois Romains qui ont enfoncé la couronne d'épines dans son crâne, c'est le Père qui a voulu que ça soit ainsi. Que lorsqu'il a dit « j'ai soif », qu'on lui donne du vinaigre, c'est le Père qui a voulu que ça soit ainsi. C'est le Père, c'est pas le hasard, c'est pas les circonstances, c'est pas uniquement la chair de l'homme, c'est le Père. Parce que Dieu nous aime. Parce que Dieu nous aime. Il a plu à l'Éternel le briser par la souffrance, et après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, oui, c'est intéressant, pas les péchés, le péché, il verra une postérité, ça c'est nous, et prolongera ses jours, il va ressusciter, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. C'est-à-dire que c'est l'œuvre de Jésus-Christ dans nos vies qui prospère, c'est pas notre œuvre. C'est « je bâtirai mon Église ». C'est Jésus-Christ. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le même livre prophétique, toujours écrit par Ésaïe, là je lui ai dit qu'il a plu au Père de le briser. Regardez ce qui est dit au chapitre 42, verset 3 d'Ésaïe. « Il ne brisera point le roseau cassé. » Ça, c'est nous. Vous savez, un roseau qui est cassé, inutile. Inutile. Un roseau, on pouvait l'utiliser pour faire un son de musique, pour faire un genre de fouet pour les animaux, pour voilà. Mais il était cassé, juste un peu cassé, c'est fini. On allait jusqu'au bout, on l'arrachait, on le jetait. Et nous, parfois, on se sent cassé dans la vie. Et nous le sommes, cassés. Et on pense, parce que notre vie est cassée, qu'elle est perdue. Pas pour Dieu. Parce qu'il ne nous brisera pas, même si on est cassé. Parce que Jésus a été brisé à notre place. Nous, il va nous reconstruire. Il va nous restaurer. Il va nous édifier. Et il a commencé à le faire. Ça, c'est notre assurance. Sinon, c'est pas le christianisme. Et combien de fois, parfois avec nos pensées, nos mots, peut-être nos attitudes, on cherche à briser ce qui est cassé chez les autres par un ministère d'accusation. On va juger. Et donc, il n'y a plus d'unité. L'unité, elle n'est pas dans la perfection. L'unité, elle n'est pas parce qu'on nous, on est parfait. Regardez, les apôtres disaient, eux, ils prêchent en ton nom, ce n'est pas juste. Eux, ils ne voyaient pas d'unité. Pourquoi? Parce que l'unité, elle était en eux-mêmes. Donc, ils ne sont pas avec nous, ils ne sont pas un. Alors que Jésus dit, non, ils sont un, puisqu'ils prêchent le même message que moi. Et là, le fondement de l'unité, c'est Christ, ce n'est pas les apôtres. De la même manière, Paul disait, il disait pas l'unité, ça sera la sincérité, l'apparence, toutes ces choses-là. Non, l'unité, c'est le message. Qu'importe, Christ est prêché. Ça, c'est l'unité. Sur le parvis, l'homme, la femme, les païens, il n'y a pas d'unité. Pourquoi? Parce qu'ils sont différents de sexe et de nationalité, de religion. Mais par Christ, il n'y a plus de mur. Entre Israël et les Ninivites, il n'y a pas d'unité, ils sont ennemis. ils se craignent, enfin Israël craint les Ninivites. Mais par Christ, par la prédication de Jonas, il y a l'unité. Elle n'est pas dans la nature de l'homme, l'unité. Elle est dans la nature de Dieu. Et donc, par Christ, il y a une unité possible. Et donc, Dieu ne brisera pas ce qui est cassé parce qu'il a un ministère de réconciliation. Si à nous, il nous demande un ministère de réconciliation, vous ne croyez pas que Dieu n'a pas un ministère de réconciliation vis-à-vis de vous? Vous croyez que Dieu a un ministère de destruction vis-à-vis de vous? Vous croyez que Dieu a un ministère d'accusation? Bien sûr que non. Ce matin, Dieu veut un ministère de réconciliation avec vous. Vous vous sentez éloigné de Dieu, vous pensez qu'il y a un mur, si vous n'êtes pas en Christ, vous ne vivez pas en Christ. En Christ, c'est accompli, tout est fait, le chantier est terminé, la porte est ouverte. Je rentre, je confesse mon péché, l'holocauste est là. Tout va bien, d'une certaine manière, même si tout va mal dans ma vie. En plus, je rajoute là où il dit... il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Là, c'est notre illustration. C'est qu'en fait, à l'époque, vous aviez des... Alors, je ne sais plus en quoi c'était fait, sur le tissu, un mélange. Les mèches étaient fabriquées comme ça. Et on le mettait dans l'huile. Et par capillarisation, l'huile montait et la mèche brûlait. Mais à la fin, quand la mèche, elle s'usait... quand elle s'éteignait, ça avait une odeur horrible dans la pièce. Et donc, ce que faisaient les gens, c'est qu'avant que la mèche ne s'éteigne, ils prenaient la mèche et par la fenêtre. Et elle s'éteignait dehors, c'était que la mauvaise odeur était dehors. Et nous, des fois, c'est vrai qu'on sent mauvais. C'est vrai, la sueur n'est pas tolérée dans le temple. Rappelez-vous, en Ézéchiel, lorsqu'il est parlé du millénium, alors on le sait, les Lévites et les sacrificateurs, la femme d'Aaron, portaient des tuniques en lin. On ne sait pas pourquoi, mais on a l'explication d'Ézéchiel, parce que quand il nous est parlé du temple dans le millénium, donc le temple futur, il est dit que les prêtres auront des tuniques de lin, comme sous la loi de Moïse, afin de ne pas transpirer. Pourquoi? Parce que la bénédiction de Genèse 3, c'est le sol est maudit et tu travailleras à la sueur de ton front. Et la sueur est une malédiction, c'est un produit de la chair. Et c'est les œuvres, tu travailles. Alors que le prêtre rentre avec une tunique de lin où il ne transpire pas parce que l'œuvre est accomplie. Ce n'est pas un travail. On entre dans le repos de Dieu, dans la présence de Dieu. Et donc, j'utilise cette expression, les Parisiens la connaissent. Ma mère avait une expression, des fois on était invités chez la famille, chez les amis. Et puis, vous savez, quand vous êtes invité, qu'est-ce que j'apporte? Le dessert et tout ça. Et puis, des gens devaient dire, j'entendais au téléphone... à l'époque c'était du filaire, hein, c'était pas des portables. Elle disait, bon, qu'est-ce que j'apporte? Les gens devaient répondre, bah viens, non, viens, maintenant viens. Elle dit, bon, bah j'amène mon fils. Et ben, nous on se présente à Dieu en disant, j'amène ton fils. On n'apporte pas des œuvres. On n'apporte pas de quoi se justifier pour pouvoir rentrer. Comme des fois, si on se dit, j'ai pas un bouquet de fleurs, alors qu'on m'a invité, hein, mais il faut que j'amène quelque chose quand même, pour bien payer ma place. On est invité gratuitement, mais on veut payer. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des cadeaux, tout ça, c'est pas ça. Mais non, mais il y en a qui vont se faire des cadeaux pour trouver quelque chose à avoir dans les mains quand même. Mais on est comme ça avec Dieu, qu'est-ce que je peux apporter? Et des fois, on n'a pas grand-chose à apporter. Bah, amener l'Holocauste, amener Jésus-Christ, c'est le meilleur moyen d'entrer dans la présence de Dieu. C'est le seul, en fait, moyen. Et donc, nous, on pense que ah, notre vie, elle sent mauvais. Et donc, Dieu va dire, oh là là, lui, je le jette par la fenêtre. Ça sent mauvais. Toujours dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que Christ est un sacrifice de bonne odeur. Et donc, comme on amène l'Holocauste, eh ben, ça, notre parfum, c'est le parfum de Christ. Que Dieu vous bénisse.